Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Midi tout pile sur Radio Immo, Radio Territoria. Nous sommes ravis de vous faire vivre cette troisième et dernière journée du salon de l'immobilier bas carbone ici au Carrousel du Louvre depuis l'espace Le Nôtre. Sensibiliser le public et les acteurs du secteur aux enjeux environnementaux de l'immobilier tout en soulignant son impact significatif sur les émissions de gaz à effet de serre et la biodiversité. Ce sont les objectifs de la fresque de l'immobilier durable et on en parle justement dans cette émission avec Chloé Bertrand. Bonjour.
Bonjour.
Chloé, vous êtes chargée de projet à l'Observatoire de l'immobilier durable. Première question, Claire, quelles sont les différentes missions de l'Observatoire de l'immobilier durable ?
Alors, l'Observatoire de l'immobilier durable, l'OID, oui. C'est une association d'intérêt général de loi 1901. La mission principale, c'est d'aider à accélérer la transition écologique du secteur immobilier et donc d'accompagner tous les acteurs immobiliers à la transformation de ce secteur. Et pour ça, on est une association qui met à disposition du secteur des ressources accessibles librement. Donc on a un centre de ressources sur lequel on publie des décryptages de l'actualité, des notions techniques sur différentes thématiques environnementales et sociales. On permet aussi l'intelligence collective et la mise en relation des acteurs, donc à travers des groupes de travail sur les thématiques énergie carbone, biodiversité, sobriété, adaptation, eau. Et enfin, on a des programmes spécifiques sur certains sujets, l'immobilier durable à l'échelle européenne, la biodiversité pour construire des nouveaux indicateurs de mesure. Le dernier, c'est le programme dont on va beaucoup parler, je pense, sur la formation, donc avec la fresque de l'immobilier durable et le parcours de formation.
Effectivement, la fresque dont on va parler dans un instant, peut-être juste avant une autre question aussi. Là, on se retrouve sur un salon, le salon de l'immobilier bas carbone. Pourquoi c'est important pour vous, pour l'association, d'être présent justement sur ce type d'événement ?
Il y a déjà de nombreux salons qui regroupent des acteurs de l'immobilier au fur et à mesure de l'année. C'est d'autant plus important pour nous d'être présents sur les salons qui sont orientés vers des sujets environnementaux, donc ici en l'occurrence bas carbone, notamment parce qu'on y retrouve des acteurs qui sont intéressés par ces sujets, motivés et qui mènent des actions. On est au cœur ici de beaucoup d'innovations sur les sujets énergie et carbone. Et nous, à l'OID, la mission qu'on a, c'est de mettre en avant ces solutions, d'aider les acteurs à les mettre en place. Donc être ici et pouvoir voir ce qui est fait par les acteurs eux-mêmes, c'est très utile pour nous. Ça nous permet de rencontrer en personne des entreprises avec qui on parle régulièrement, donc pour renforcer les liens. Et voilà, de s'inspirer, de voir ce qui est fait, de pouvoir le mettre en avant via les ressources qu'on met en ligne à disposition de tout le monde.
Et puis de faire peut-être sur place une démonstration avec la fresque.
Exactement.
Donc à l'image de la fresque du climat, il s'agit pour la fresque de l'immobilier durable d'un jeu. C'est donc très ludique, c'est la volonté.
C'est exactement la volonté. L'idée de départ, c'était d'aider les acteurs de l'immobilier, les professionnels à se former, à monter en compétence sur ces sujets. Donc pour ça, on en parlera après, mais on a des modules de formation. Mais l'objectif aussi, c'est de viser tout le monde. On s'est dit que pour l'instant, ceux qui s'intéressent surtout à ces sujets, c'est soit dans les directions RSE, soit dans les directions tout court. Pour que la filière se transforme, il faut que tous les acteurs soient sensibilisés, formés et compétents sur ces sujets. Et donc on voulait avoir une première brique de sensibilisation accessible à tous. Et donc on s'est inspiré de ce qui existe déjà et de ce qui marche bien. Donc la fresque du climat et plein d'autres fresques. Donc c'est pour ça que cet outil, il aborde de nombreuses notions d'immobilier durable, mais par un angle ludique, accessible, peu importe son niveau de connaissance sur le sujet.
Donc c'est un jeu de cartes, c'est ça ? Comment ça se déroule concrètement ? Qu'est-ce qu'on y trouve sur ces cartes ?
C'est ça, c'est un jeu de cartes. C'est un atelier qui se déroule en 3 heures. Donc la première partie, c'est des cartes. Il y a une trentaine de cartes où on revient sur les différentes étapes du cycle de vie d'un bâtiment. Donc à quelles étapes est-ce qu'on a différents impacts ? On aborde ensuite les impacts environnementaux et sociaux. Donc on parle d'énergie carbone, mais pas que, de biodiversité, d'étalement urbain, d'artificialisation et d'imperméabilisation, de consommation des ressources, beaucoup de notions sur les impacts de l'immobilier. Et aussi sur les risques que ça représente pour le secteur. Risque d'augmentation des coûts, de risques assurantiels avec les aléas climatiques. On aborde plusieurs risques. Donc c'est vraiment une fresque qui s'adresse à l'aspect entreprise immobilière, acteur immobilier. Et on parle aussi, de fait, des réglementations auxquelles sont soumis ces acteurs.
Oui, il y en a quelques-unes.
Il y en a quelques-unes, voilà. Il y a tout un lot sur les réglementations. et quand même on parle de solutions aussi pour leur donner voilà, des idées, des pistes à explorer. Mmh. Donc ça c'est la partie carte, et ensuite il y a une autre partie, donc le reste des 3 heures est dédié justement au fait de développer des solutions. Donc on leur fait imaginer des projets imaginaires mais réalistes qui peuvent les inspirer à ensuite, une fois de retour dans leurs équipes, à mettre en place telle solution, à aller creuser telle piste. Donc voilà, la deuxième partie est plus créative, mais elle est bien orientée solutions business et concrètes.
Du coup, c'est vous qui venez aux entreprises, ce sont les entreprises qui viennent à vous, vous avez des animateurs, comment ça fonctionne ?
Il y a un peu des deux. On est à l'OID quelques-uns à être animateurs de fresques. À la demande des entreprises, on va dans les entreprises animer une fresque pour un groupe, pour deux groupes, pour trois groupes, parfois pour cinq ou six en même temps. Et pour les entreprises dans lesquelles il n'y a pas assez de participants pour faire tout un groupe, on a aussi des créneaux dans nos locaux à l'OID où les gens peuvent venir individuellement ou par deux. Et dans ce cas-là, on mélange les différentes entreprises, ce qui est aussi très, très riche.
Ouais, évidemment.
Et donc voilà, pendant 3 heures, ils rencontrent d'autres collègues et ils font la fresque. Et donc on est effectivement, nous pour l'instant, à l'OID, on est 5-6 animateurs. Et on a aussi formé d'autres animateurs dans d'autres entreprises. Il y a régulièrement des sessions de formation qu'on anime pour que les autres puissent devenir animateurs.
D'accord, voilà. Donc une formation pour devenir également animateur. Possibilité également de jouer en ligne ?
Oui, le format en ligne existe. Il a moins de succès que le format en présentiel pour l'instant. Mais il existe, il est prêt à déployer. Mmh. Donc voilà,
ça fonctionne.
C'est le même format, un peu plus court parce que c'est plus compliqué d'être concentré 3 heures en ligne.
Ouais.
Mais c'est pareil, on pose les cartes, on lit les notions, puis on imagine un projet durable.
Est-ce qu'on peut donner comme ça quelques exemples concrets de retours que vous avez ou de questions qui sont éventuellement posées ?
On a plutôt des retours positifs, donc on est très contents, enfin globalement très positifs même. D'une part parce que c'est presque un moment un peu team building, soit au sein d'une même équipe, soit justement quand on rencontre d'autres métiers ou d'autres entreprises.
Oui, clairement. Ouais.
Il faut se présenter, expliquer son métier, se placer au sein de tous ces enjeux. Et c'est l'occasion aussi de chaque métier d'expliquer ce qu'ils font. Et à la fin, la conclusion, c'est plus les métiers se parlent entre eux, plus ça va être aisé de mettre en place des pratiques circulaires et durables. Voilà. Et donc c'est un moment ludique, comme on l'a dit, donc les gens ressortent plutôt enthousiastes et avec l'envie de mettre en place les actions. Et forcément un passage comme la fresque du climat où on pose des constats, donc c'est un peu plus lourd, mais on enchaîne avec la partie solution. Donc voilà, les gens sont motivés, ont envie de le faire, et il leur ressort souvent dans la partie création de projet des choses très intéressantes, parfois un peu farfelues, mais qui donnent envie aux gens de les mettre en place, plutôt que de leur donner envie de bouger par la crainte et par les risques. On veut aussi leur donner envie de bouger parce que c'est désirable de monter des projets durables. Donc ça parle beaucoup de mixité, de réversibilité. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire des bureaux qu'on n'utilise plus ? Comment est-ce qu'on pourrait mélanger les populations ? Donc voilà, c'est des choses assez enthousiasmantes.
Et est-ce que vous arrivez finalement à mesurer aussi l'impact de la fresque, c'est-à-dire dans les décisions qui vont être prises après par les entreprises qui y ont participé, notamment en termes de politique RSE ?
Ça dépend pas mal de pourquoi est-ce que l'entreprise veut qu'on vienne faire la fresque. Mmh. Parfois, c'est juste pour sensibiliser parce que c'est pas encore le cas dans leurs équipes et c'est un bon premier pas pour expliquer ce que c'est que la RSE, pouvoir en reparler après. Parfois, c'est vraiment dans le cadre de la définition d'une feuille de route RSE, donc dans le cadre d'un séminaire ou au début de la mise en place de politique. Et donc là, on prépare un peu différemment la fresque. Il faut vraiment que les participants ressortent avec des idées précises, des actions à mettre en place. Donc ça arrivait plusieurs fois qu'à la fin, il y a une partie où on doit classer des actions, qu'est-ce qui est facile, urgent à faire. Ouais. Et donc il faut qu'ensuite les équipes les prennent en main, les mettent en place et peut-être nous disent au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, cette action, elle a été mise en place, elle a marché.
Vous avez des retours comme ça ?
Là, pour l'instant, la fresque, elle a été lancée fin 2023, donc début 2024.
Donc c'est un peu
donc c'est un peu les premiers
un peu short,
tours. Ouais. Mais il y a plusieurs ateliers qu'on a animés où c'était ça l'objectif. Donc à suivre dans les prochains mois. Pour voir où en sont ces projets qui avaient été évoqués.
Ouais, clairement, puis c'est super d'avoir ce type de retour, évidemment, après. Comment l'OID collabore avec les acteurs publics, privés, pour accélérer la transition écologique de l'immobilier ? Puis après, on pourra peut-être parler des autres actions que vous menez, évidemment, en dehors de la fresque.
Alors, sur les différents programmes que j'évoquais, on est souvent accompagné de partenaires, donc soit privés, soit publics, soit institutionnels, dans le cadre-là du pôle formation avec la fresque et le parcours de formation. On est accompagné par 5 partenaires, donc 5 entreprises, qu'on sollicite beaucoup pour savoir quels sont leurs besoins, quels sont les sujets qu'il faut absolument traiter, avec quel ton. Donc, on a une relation assez forte avec eux, ils nous ont aidé à co-construire tout le contenu. Et là, je parle de ce programme, mais c'est pareil pour les autres thématiques à l'OID. Et pareil avec des partenaires institutionnels. Là, nous, en l'occurrence, on a co-construit ce programme avec l'École nationale des ponts et des chaussées.
D'accord. Donc,
pareil, qui ont un master spécialisé sur le bâtiment immobilier durable. Donc, qui ont une bonne vue de quels sont les prérequis, les choses importantes à savoir. Et on est, de manière générale, à l'OID, souvent accompagné par des organismes publics, par exemple l'ADEME, pour nous aider à mettre en avant certains contenus, construire certains contenus, notamment... On a aussi des MOOC, toujours sur le sujet de la formation, qui a été fait avec l'ADEME. Donc voilà, on est en lien étroit avec et les entreprises privées, les institutions publiques et des organismes académiques.
Alors, est-ce qu'on parle des autres actions que vous menez, justement, en termes de sensibilisation et de formation, hormis, la fresque ?
La fresque. Bah oui, parce que d'ailleurs, la fresque, c'est en fait la première étape d'un parcours, puisque c'est vraiment l'étape de sensibilisation. L'objectif, après, c'est de donner aux participants l'envie de venir creuser ces sujets plus précisément et de façon plus technique. Et pour ça, on est en train de sortir un programme de formation en ligne qui s'appelle le Label ID. C'est un programme de formation qui délivre à la fin une attestation de connaissances individuelle au professionnel qui est venu faire le parcours. Donc, ça traite de tous les sujets qu'on a évoqués, énergie carbone, biodiversité, économie circulaire, impact social sur le territoire. Voilà, il y a plusieurs thématiques qui ont été identifiées justement avec ces partenaires. Académiques et entreprises. Et donc, ils sont dans des modules de formation en ligne. À la fin des modules, il y a des évaluations à passer pour pouvoir venir attester de la connaissance du professionnel sur ce sujet. Et donc, ça, c'est pour aller un pas plus loin que la fresque. Et pour aller encore plus loin, on a pour objectif l'année prochaine de créer des parcours équivalents, mais à destination des métiers, pour être encore plus opérationnel, les accompagner au quotidien sur, maintenant que j'ai les connaissances, comment
concrètement je
manipule les outils.
Exactement,
qui les
exactement. Tiens, bah, vous parlez d'outils, on va en parler. Parce que vous mettez justement à disposition des professionnels qui viennent vous voir des outils et des ressources à disposition. De quoi on parle là, en fait, concrètement? De quel type d'outils? De quel type de ressources?
C'est assez large ce que met à disposition l'OID, mais notre centre de ressources, donc c'est sur un site internet qui s'appelle Tel ON,
ouais.
Sur tous les sujets qu'on a évoqués, on a des outils. En général, ce sont des publications à lire qui viennent décrypter une réglementation. Cette réglementation, voici ce qu'elle dit, voici ce que ça implique pour les acteurs, sur des notions comme la compensation écologique, le béton bas carbone, voilà, les notions dont on parle dans l'actualité. On vient pareil faire un décryptage, voilà ce que ça veut dire, voilà ce qui existe, voilà comment il ne faut pas mal interpréter. Donc c'est plutôt en général sous forme de fiches ou de choses assez vulgarisées pour être déployables au plus grand nombre. On vient voilà, décrypter un peu ces notions, donner des coups de pouce pour comprendre, parce que les professionnels dans leur quotidien, il faut qu'ils mettent en œuvre ces solutions, mais ils n'ont pas le temps forcément d'aller creuser d'où ça vient scientifiquement, qu'est-ce que l'actualité dit. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qu'on fait pour eux.
Vous leur donnez des billes, comme
exactement.
On dit. Tout à l'heure, on parlait de partenariat avec le public ou le privé, avec l'ADEME, avec l'École des Ponts ParisTech. Comment est-ce que finalement vous arrivez, parce que vous êtes une association, vous avez donc des subventions, comment est-ce que vous arrivez à assurer finalement votre indépendance et votre neutralité dans les analyses et les recommandations que vous pouvez faire?
Oui, bah ça c'est une question importante. On est effectivement une association indépendante, notamment du fait qu'on a plusieurs sources de revenus, donc on n'est jamais dépendant d'un seul et même type d'acteur, que ce soit par les cotisations des membres de l'association ou des subventions. On n'est jamais tenu d'orienter les publications sur tel sujet. Ça arrive régulièrement qu'on consulte les membres ou les partenaires pour leur demander leur avis, savoir quel est le ressenti marché, parce qu'on a moins cette vision si on ne les consulte pas. En revanche, sur la ligne éditoriale, on n'a jamais quelconque contrat ou obligation sur ce qu'on va publier. Et on est, comme le gros de notre travail, c'est beaucoup de faire du suivi d'actualité réglementaire et aussi de publications scientifiques, on essaye de rester factuel. La science dit que cette solution elle est à préconiser, le marché en est à cet état d'appropriation de la solution. On ne va jamais plus loin dans les recommandations qu'on fait. Le but, c'est de montrer ce qui existe et ce qui est positif. Après, on n'est pas du tout le porte-parole de tel ou tel acteur de l'immobilier.
Ce sera ma dernière question. Alors, on serait dans une salle de classe, je pourrais vous dire, vous avez 4 heures. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Vous avez peut-être beaucoup moins. Mais quelle perspective vous voyez pour l'avenir de l'immobilier durable en France et peut-être aussi à l'international? Allez, bon courage.
Je pense que déjà, il faut qu'on se rappelle qu'à l'OID, on est en contact avec les membres, les membres plus actifs sont ceux qui veulent œuvrer pour l'immobilier durable, qui sont très intéressés par ces sujets, qui veulent mettre en place des choses, qui veulent être innovants. Donc on est entouré d'acteurs qui nous donnent à penser que ça va vraiment vers le bien. Ça se voit ici, il y a beaucoup de monde au CIPCA, donc ces sujets prennent vraiment de l'importance. Ils sont traités de plus en plus d'un côté business et ils sont intégrés dans les modèles d'affaires. Donc c'est assez positif de voir que ces sujets, ils sont plus du tout séparés, ils sont plus du tout méconnus. Donc ça va vraiment dans le bon sens. Après, l'immobilier, c'est un secteur un peu particulier parce que par définition, c'est immobile, c'est sur du temps long. Donc voilà, je pense qu'on en est à l'étape où les sujets commencent à être bien connus. On commence maintenant à creuser les pistes de comment est-ce qu'on va mettre en place des changements. La difficulté, c'est de faire un passage à l'échelle et de ne parler plus qu'aux convaincus, mais bien sur toute la chaîne de valeur, sur toute la filière. Donc on en est à cette étape-là, mais ça, chaque jour, il y a des nouveautés, donc c'est encourageant et on a toujours encore du travail à faire.
Bon, un grand merci Chloé Bertrand d'être venue sur ce plateau. On va encore jouer cet après-midi ?
Absolument, toute l'après-midi.
Ok, bah super, bah bonne continuation. Merci d'avoir gentiment répondu à mes questions. Merci également à vous de votre fidélité. On continue à vous faire vivre cette troisième et dernière journée du CIPCA. Et on se retrouve tout à l'heure. Ciao, salut.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.